tellement bon, cette chanson. Alors, je vous dis merci, Mélanie Minier.
Bonjour.
Bonjour. Parce que c'est grâce à vous qu'on écoute cette chanson qui fait partie,
oui,
donc, de votre plus récent roman, oui, Attends-moi Tristan, qui est un roman jeunesse publié chez Hugo Roman dans la collection Atypique. Alors, merci, oui, d'être là. Vous nous parlez de Jonquière. Est-ce qu'il fait beau,
oui,
à Jonquière?
Est-ce que vous m'entendez bien?
Alors, le temps est beau chez vous?
Non, c'est la pluie qui nous a assaillis, là.
Ah oui, bon. Alors, la journée sera quand même agréable pour lire, pourquoi pas?
Oui.
Racontez-nous, Marie, brièvement, les grandes lignes, là, l'histoire de votre roman « Attends-moi, Tristan ».
Attends-moi, Tristan, c'est un roman, vous l'avez dit, pour jeunesse, en fait, pour les 12 à jeunes adultes à peu près. Ça raconte l'histoire. Ben, Tristan, en fait, c'est le personnage principal secondaire qui est autiste de haut niveau, qu'on appelle là, autiste doté de la parole, qui va dans une école typique et puis qui est dans une classe normale, comme on dit. Mais le personnage principal, c'est Mélodie. Mélodie se trouve à vivre dans le coin de Québec avec sa mère dans un petit appartement, puis vit des problèmes familiaux, surtout avec le conjoint de celle-ci. Donc,
ouais, Polo, elle l'aime pas trop.
Non, elle aime pas beaucoup Polo. Puis est envoyé chez sa grand-mère au lac Saint-Jean, donc dans le coin de Saint-Bruno, puis pour justement là pour essayer de ben, la mère veut qu'elle prenne conscience de toutes sortes de choses, puis c'est ça, elle fait la rencontre de Tristan qui est son voisin. Finalement, Tristan qui est ostracisé un petit peu à l'école, qui vit de l'intimidation en raison de sa différence. Mélodie qui veut se faire accepter aussi, qui est nouvelle à l'école, qui va se mettre amie avec une gang qui n'aime pas Tristan. Certains même sont très intimidants vers lui, donc elle va être comme partagée entre les deux.
Mm-hmm.
Puis il va se produire un drame là dans la communauté qui a rapport avec Tristan, mais je vous en dis pas plus.
Mais non, Mélodie aussi va être victime d'intimidation. Là. La gang ne va pas l'accepter nécessairement immédiatement.
Non, c'est ça, justement. Il y a une des filles qui est de prise en grippe, comme on dit. Puis, c'est ça. Donc, ouais, elle aussi vit des difficultés. Puis souvent, ben, on vit ça. Hein, les jeunes, pour se faire accepter, ben, souvent, vont dériver un petit peu là, du bon chemin, comme on dit. Donc, c'est un roman que j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup de plaisir à écrire. Là. Ça a vraiment été un coup de cœur du début à la fin.
Ah
là.
Oui?
Ah oui, pour moi, là, ça a été vraiment fantastique. Puis la fin, avec la chanson de Bob Dylan, reprise par Jimi Hendrix. Donc, c'est vraiment, vraiment du bonbon pour moi. Là.
Absolument. Il y a de la musique qui est quand même assez présente. Là.
Oui,
Mélodie,
oui,
qui va apprendre l'instrument, le hautbois. Elle va tomber
exactement,
d'ailleurs amoureuse de cet instrument. Vous avez, exactement, vous-même, une fille autiste, Mélanie.
Oui,
quel est son prénom?
Exactement. Camille. Ma fille s'appelle Camille, elle a 15 ans.
Alors, Camille a un très, très joli prénom. Est-ce que vous a inspiré dans l'écriture de ce roman?
Bien, c'est sûr, sauf que moi, ma fille, elle n'est pas comme Tristan, par exemple. Moi, ma fille, elle est autiste non-verbale, c'est-à-dire que, c'est ça, là, elle comprend beaucoup, beaucoup de choses, mais elle ne peut pas vivre de façon autonome, là, comme peut le faire Tristan. Il y a plusieurs sortes de...
Il y a un spectre.
C'est ça, le spectre est large. Donc, on peut avoir des gens comme mon Tristan, des gens qui vont à l'université, des gens qui... Mais ces gens-là peuvent avoir les mêmes manifestations que ma fille, c'est-à-dire peuvent avoir des gros, gros problèmes avec, tu sais, à comprendre les règles sociales, à vivre dans notre quotidien, finalement. Donc, c'est quand même semblable, mais les manifestations sont différentes. Moi, ma fille, je peux pas la laisser aller à pied au dépanneur. Tu sais, faut que j'aille avec elle. Là. Faut que c'est un support constant. Là. C'est pas comme mon Tristan. Par contre, j'ai déjà eu un personnage qui s'appelait Léo dans mon roman qui a été publié chez Lomeac Cascouillard il y a 2 ans. Puis le petit Léo était un personnage secondaire, mais lui était vraiment comme ma fille.
Ouais. Et en lisant votre livre, on comprend bien que vous voulez sensibiliser les lecteurs, les lectrices à la différence.
Exact.
Pourquoi c'est important,
exact,
pour vous, Mélanie Minier?
Ah, moi, c'est vraiment, là, je vous dirais quasiment un cheval de bataille. Là. Tu sais, quand je fais des entrevues, j'en parle. Moi, je suis beaucoup, beaucoup impliquée. Là. J'ai des groupes Facebook avec des mille abonnés. J'ai des j'aides quotidiennement des papas, des mamans. Je donne des formations en autisme aussi. Puis moi, ben, je le vis. Mes amis le vivent. Moi, ma fille va dans une école. Il y a des handicapés qui ont la paralysie cérébrale. Il y a des autistes. Il y a des trisomiques. c'est vraiment mon quotidien, puis mes meilleures amies aussi ont des enfants comme la mienne. Donc, c'est vraiment dans notre quotidien, puis j'entends les récits là, autour de moi depuis 15 ans. Puis moi, j'ai pas vraiment vécu moi-même par rapport à ma fille des situations où est-ce que j'ai senti qu'on la rejetait de façon formelle, là. Mais c'est sûr que, tu sais, les regards ou... c'est sûr que ça, la différence, ça frappe, là. Tu sais, c'est vraiment, les gens sont curieux, puis, mais c'est ça, en parlant, puis surtout en passant, dans mon cas, par la littérature, ben, c'est sûr qu'en sensibilisant les jeunes, ben, je trouve que c'est une excellente façon de les, parce que il y a des jeunes qui sont pas en contact avec la différence nécessairement,
c'est ça,
là.
Ouais.
Tu sais, qui a personne d'handicapé à leur école, ou tu sais, que la différence, c'est pas nécessairement l'autisme ou le handicap, là, ça peut être n'importe quoi, là, on s'entend, ça peut être une différence corporelle, ça peut être donc moi je trouve ça important de les mettre en contact avec ça, puis la façon que j'ai de le faire, ben c'est ça, c'est souvent en passant par des personnages dans mes romans, puis en étant mytho face à des gens comme ça, ben je pense que ça va faire des adultes qui ont une certaine ouverture d'esprit, tu sais, par rapport aux gens qu'ils vont rencontrer plus tard, donc ils vont peut-être être plus sensibilisés, plus sensibles, plus empathiques. Donc c'est vraiment, vraiment là quelque chose qui me tient à cœur.
Une ouverture d'esprit et aussi comment dire une espèce d'intérêt pour ces
oui.
personnes dites atypiques ou neuroatypiques. Parce que,
exactement.
Puis aussi,
exactement.
C'est ça, j'aime bien que vous donniez le point de vue de la personne autiste, en tout cas dans le cas de « Attends-moi Tristan ». Tristan
oui.
qui dit qu'il trouve que les neurotypiques, qui sont donc des gens « normaux » entre gros guillemets,
comme nous, oui.
Oui, sont difficiles à décoder. Et puis…
Exact.
Ça nous fait prendre conscience qu'on n'est pas nécessairement facile, nous non plus, là, parce que il dit à Mélodie, tu dis que tu vas bien, mais finalement tu vas mal, puis ils vont faire une sorte de pacte en se disant, nous, on va se dire la vérité, parce que...
Exactement. Tristan a beaucoup de misère au début à comprendre Mélodie, parce que nous, on s'en rend pas compte, mais pour des autistes, là, nous, les neurotypiques, comme on appelle, on est vraiment, vraiment compliqués des fois, là, tu sais, comme dans cet exemple-là, c'est un exemple parfait, il dit, ben, elle pose la question, qu'est-ce qui est compliqué, qu'est-ce qui pour toi, là, tu sais, mais ben, c'est ça, il explique que, tu sais, quand on vous demande comment ça va, vous dites la plupart du temps, ça va bien, mais tu sais,
oui.
souvent, on sent que c'est pas le cas, mais elle lui explique, ouais, mais c'est une façon de parler, je sens bien que, mettons, il y a des personnes qui veulent pas que je leur raconte ma vie, mais tu sais, pour lui, c'est mélangeant, là, tu sais, puis tous les codes sociaux, comme par exemple, il pose la question à l'école, tu sais, comment de fois je peux lever ma main pour répondre à une question avant que je me fasse intimider ou regarder de travers? Ou,
oui, parce que lui, il fait les choses tout à fait spontanément. Il aurait le goût de répondre à toutes les questions, mais il sent le jugement puis la claque qui s'en vient là, par d'autres collègues.
C'est ça, parce que tu sais, pour les autistes, c'est très difficile de se rendre compte, par exemple, que l'autre peut, je parle d'un autiste comme mon Tristan, mais parfois de se rendre compte que l'autre personne est un petit peu fatiguée d'entendre parler d'un sujet de prédilection ou de se rendre compte que bon, ça fait peut-être assez de fois que je réponds, les autres peut-être voudraient avoir plus de place. Ou, tu sais, c'est toutes des affaires que nous, on apprend de façon innée là, en voyant nos parents agir, en voyant nos pères agir. Mais pour les autistes, là, c'est plein de détails comme ça qui se posent des questions. Puis décoder notre monde, ça peut être assez, assez complexe. Là. Décoder nos habitudes, bon, on est dans le même monde, là, mais de décoder les habitudes, les traits sociaux.
Le langage verbal, non-verbal.
Exactement,
oui.
Lire dans le non-verbal, par exemple, que telle chose peut me déranger ou c'est vraiment, vraiment difficile. Fait que Mélodie prend conscience de ça. Puis elle lui dit, ben écoute, on fait un pacte, on va se dire tout le temps la vérité, comme ça va être plus facile pour nous deux, en fait.
Pas parce toujours facile.
Est assez
ouais.
Oui, elle aussi est assez renfermée. Fait que le contact de Tristan va quand même réussir à s'ouvrir.
C'est vrai.
Donc, c'est des deux côtés, là, souvent, la différence. C'est qu'on pense que c'est nous qui faisons, qui sommes gentils en allant vers ces gens-là, mais souvent, ils nous apportent énormément. Hein.
Complètement. Et Mélanie, à la fin du roman, vous remerciez Mathieu Giroux, une personne autiste,
oui.
qui vous a donné de l'information sur l'autisme, que vous qualifiez d'expert en autisme. Qu'est-ce
oui.
qui vous a appris de particulier, ce Mathieu Giroux?
Ah, mon Dieu, lui, il est sur les réseaux sociaux, puis c'est quelqu'un qui donne dans le coin de Montréal là, des conférences assez scientifiques, puis il est connu des chercheurs, il travaille avec des chercheurs à Montréal souvent en tant que personne autiste. Puis lui, il est vraiment autiste là, comme mon Tristan, là, c'est assez quelqu'un qui est connaisseur et tout ça. Moi, je dis tout le temps qu'il sait tout. Là. Donc, mais c'est en interagissant sur les réseaux sociaux, en voulant aider les autres, que je me suis rendu compte comment ils pensaient, comment ils fonctionnaient. Donc, je trouve ça vraiment fascinant. Là, on a beaucoup, beaucoup à apprendre de ces gens-là là, qui sont différents, mais dans le fond, on est tous différents à notre façon. Là. On a tous nos façons de fonctionner. Puis c'est ça qui est beau là, dans l'inclusion, là, c'est de s'ouvrir aux autres puis de vivre nos expériences finalement.
Oui, différents comme toi, hein, comme on peut le voir sur les T-shirts.
Exactement. Puis en plus, c'est le mois de l'autisme. Donc, oui. Puis la collection, en plus, vous avez parlé d'Atypique là, en début d'émission. Bien, Atypique, ça, c'est moi qui ai créé cette collection-là. En fait, c'était mon bébé, comme on dit. Moi, je voulais faire publier mon Tristan, mais avec l'idée de la collection, ça me tenait beaucoup à cœur. Parce que ça va être plusieurs auteurs qui vont être appelés à publier dans cette collection-là, pas nécessairement moi tout le temps. Mm-hmm. Donc, moi, c'était plus l'idée de la cause là, qui me tenait à cœur que de penser, en fait, à moi là-dedans. Là. Puis les histoires dans Atypique, ça va être pas seulement sur l'autisme, là, ça va être des adolescents qui se sentent différents. Donc, on peut se sentir, on en a parlé un petit peu, là, différent pour toutes sortes de raisons. Par exemple, avoir une maladie mentale ou qu'un proche ait une maladie mentale ou parce qu'on a une différence corporelle ou une différence sociale-économique dans notre famille ou il y a plusieurs raisons qui font qu'un jeune peut se sentir différent. Donc, c'est des romans qui vont aborder là, ces thèmes-là. Fait que ça va être vraiment intéressant.
Est-ce qu'il y en a d'autres collections comme ça qui s'intéressent à la différence?
Moi, j'ai eu l'idée de la créer parce que j'en ai pas trouvé beaucoup. Donc, ouais. C'est vraiment, je trouvais quelque chose qui manquait. On voit des fois des livres, des romans qui abordent, tu sais, mettons, un personnage qui est différent, mais pas tant que ça. Pas tant que ça, là. Pas de front. Donc,
alors, vous l'appelez A-T-Y-P-I-K. Atypique.
C'est ça, on
collection
a nommé
atypique.
Ça un petit peu à la mode. Là. on veut vraiment mettre de l'avant, c'est ça, des personnages comme ça, mais dont l'histoire prime. T'sais, nous, on veut que les jeunes, on fait le pari qu'ils vont aimer la collection, pas parce qu'on va leur dire on met quelqu'un de différent en vedette ou quelqu'un de sa famille. Ou
parce que l'histoire est bonne.
C'est ça, parce que c'est des bonnes histoires, mm-hmm. Puis c'est tout simplement qu'on est mis en contact avec des personnages qui peuvent avoir une différence, puis ça fait juste enrichir l'écriture, finalement.
Oui, et l'écriture, puis aussi l'esprit des gens. Dans votre exact. Roman, Attends-moi Tristan, donc il y a des humains, mais oui. Il y a aussi des animaux,
oui.
des cochons miniatures, des chevaux,
oui.
Des chats. C'est quoi votre lien avec les animaux?
Oh mon Dieu, c'est drôle que vous me demandiez ça parce que ça me ressemble énormément. Ça, c'est sûr que j'ai pas été pêcher ça vraiment loin. Moi, j'ai une série jeunesse chez Dominique et compagnie qui s'appelle Ma famille pas ordinaire.
Ah.
Puis, on le tome 3 sort bientôt, justement. Puis, dans cette série-là, je me fais plaisir. Moi, je suis enfant unique, mais j'ai inventé une famille d'accueil de 8 enfants qui vivent sur une fermette. Donc, je m'en donne à cœur joie. Ils ont 14 chèvres, des poneys, ils ont toutes sortes d'animaux. Des moutons, mais c'est ça me ressemble vraiment beaucoup. Là. Moi, je suis beaucoup impliquée là, dans la sensibilisation. Là,
la protection aussi.
C'est ça, la protection des animaux. Moi, j'adore les animaux. Puis, c'est sûr que c'est ça. Moi, je suis le genre de personne qui ne boit pas de lait de vache.
Non.
c'est vraiment... Mais c'est ça. Ça, c'était les animaux. C'était vraiment quelque chose qui me touchait. Puis je trouvais que la grand-mère dans le roman, qui est quand même une personne...
La grand-mère de Mélodie.
Aussi. Oui, la grand-maman de Mélodie, chez qui elle va rester. C'est quand même une personne... On dit qu'elle s'habille comme dans les années 70. C'est quelqu'un qui déplace de l'air. C'est vraiment un personnage intéressant aussi. Puis je trouvais ça intéressant qu'elle, en habitant sur sa terre, ait une espèce de grange avec des cochons miniatures qu'elle sauve, en fait, de la maltraitance. Là. Donc, c'est comme une histoire en parallèle un peu qui aide, dans le fond, parce que Tristan travaille pour la grand-mère, donc qui aide un petit peu les Mélodie et Tristan à se découvrir. Là. Ouais.
Et cette grand-mère-là, oui, elle aurait pu écouter du Jimi Hendrix facilement.
Oui!
Et paraît-il que vous rêvez de voir Attends-moi Tristan au cinéma?
Ah mon Dieu, ça c'est un rêve. Ça c'est un rêve. Comme mon roman chez le Méac Cascouya d'ailleurs, là, ça c'est vraiment un rêve. Ben, à la lecture, je pense qu'on le voit hein, dans notre tête, surtout quand on arrive à la fin. On ne dévoilera pas la fin, mais avec la chanson et tout ça. Moi, j'ai une écriture très scénaristique, là, cinématographique. Là. Quand j'écris, je mets souvent trop de détails, comme si c'était un scénario. Là. Donc, pour moi, c'est facile de faire la transposition. Puis je le vois vraiment, ce film-là. Là, puis c'est vraiment un rêve. Là.
Mais pensez-vous à entreprendre des démarches pour que votre rêve se matérialise?
C'est déjà commencé.
Ah, déjà bon. Commencé. Ouais, alors, on va avoir certainement l'occasion d'en reparler. En tout cas, je vous souhaite que ça fonctionne. Donc, après, attends-moi, Tristan, qu'est-ce qui vous attend? Là, vous avez parlé de Ma famille pas ordinaire.
Oui, le tome 3 s'en vient dans les prochaines semaines. Après ça, mon Dieu, moi, j'ai tout le temps tellement de projets littéraires. C'est quasiment un running gag. Là, je suis tout le temps en train d'écrire à la minute que j'ai 5 minutes. J'ai 2 romans pour adultes là qui devraient voir le jour. Je peux pas vous dire quand. J'ai une nouvelle série jeunesse tout à fait nouvelle là qui devrait être publiée, mais je sais pas quand non plus. Donc, ça, c'est tout nouveau aussi. C'est encore pour les 8 à 12 ans. J'aime beaucoup écrire pour cette tranche-là d'âge aussi. J'ai un autre roman en préparation. J'ai beaucoup
de pain sur votre planche.
C'est vraiment une passion.
Oui, ouais. Ça paraît, et vous en parlez aussi avec passion. Alors, moi, je ne suis pas du tout le public cible de « Attends-moi, Tristan », mais je peux vous dire que votre roman m'a fait verser une larme.
Oh mon Dieu, pour un auteur, c'est tellement... Je suis désolée pour vous, mais c'est vraiment...
Soyez pas désolée, là, c'était une jolie larme.
Oui, mais c'est vraiment, si vous avez été touchée, c'est vraiment un cadeau là pour moi. Là, je suis vraiment, vraiment contente. Puis je pense qu'il va plaire aux jeunes aussi. Là, c'est mode, tu sais, je veux dire, ça se passe dans une polyvalente. C'est quand même près des jeunes, là, donc je pense que ça va plaire.
Oui, il y a des êtres qui justifient le monde, qui aident à vivre par leur seule présence. Mmh. Albert Camus, le premier homme, une phrase, une citation qu'on trouve au début de votre roman. Alors, en direct de Jonquière, c'était Mélanie Minier. Merci pour cette entrevue. Vous direz un beau bonjour à Camille de notre part.
Bien, merci infiniment. Merci, au revoir.
Au revoir.